à la fois tout est dit et maintenant c'est place à votre parole, à vos interventions et à vos questionnements. Donc des interventions, des questions qui peuvent s'adresser aux trois intervenants de ce matin, à la fois Catherine, Myriam et Antoine. Donc ça peut porter sur, soit sur des questions de clarification, soit sur un premier niveau de réaction. Il y a un micro qui circule, non ? Oui. Qui souhaite intervenir ? On est pris un peu dans l'émotion du témoignage, hein, donc après c'est parfois difficile. Myriam ?
Bonjour, je voulais simplement dire que nous avons mené une très chouette expérimentation avec la SBL Le Grain. Vous avez peut-être entendu parler avec Alain. C'est vrai, sur la logique du portfolio. Et donc, voilà, petite parenthèse, parce que j'ai peur d'oublier, mais c'est vrai qu'on a des résultats tout à fait intéressants. Vous avez peut-être eu les résultats par Alain. Voilà, c'est tout.
Alors, pas de questions ?
Je vais quand même poser une question. lire et écrire vient de faire un référentiel pour l'alpha, ça serait intéressant de savoir comment ce référentiel qui comporte sûrement des indicateurs derrière a pu ou n'a pas pu proposer ne pas rentrer, disons, dans cette logique de référentiel de compétences qui va contrôler, qui va normer, qui va... est-ce que c'est un référentiel qui permet de faire, oui, de l'évaluation, mettre un cadre de référence, mais sans, entre guillemets, vendre notre âme, disons, et rester fidèle à nos valeurs, à nos principes. Comment ça a été travaillé? Comment ça a été pensé? Est-ce que c'est donc quelque chose d'assez nouveau dans l'ensemble de tous ces référentiels dont on a parlé aujourd'hui?
Donc ça, c'est clairement une question pour Catherine.
Mais c'est, donc comme il est en expérimentation, c'est trop tôt pour répondre. Donc effectivement, comme on a la liberté, donc on a chacun à son bout. Donc on le construit en par rapport à ses principes. Donc ce qui est différent des c'est un peu comme les critères de qualité qu'on a utilisés, c'est-à-dire ce qui est important, c'est d'expliciter le cadre idéologique dans lequel on est, et donc après c'est mettre l'accent aussi sur le niveau pédagogique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on travaille pour arriver aux impacts qu'on a illustré, que la vidéo illustre, mais à la fois quel est l'enjeu de donner pour que les apprenants puissent avoir la maîtrise de leur parcours, ce qui implique que les formateurs soient au clair avec ce que c'est lire, écrire, parler, calculer, et donc on constate en travaillant que c'est pas toujours le cas. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire de travailler pour que l'autre, que ce soit des apprenants qui coévaluent avec les formateurs et qui, l'exemple de la discussion que Michel a eu, que Michel a parlé de la formateur qui discute, eh bien, c'est un exemple qu'on a rencontré avec les personnes qui ont testé le portfolio. Et donc on a des formateurs qui nous disent, mais moi je me rends compte que je formalise rien, que je discute tout le temps. Et donc voilà, donc ça, j'espère que ça va avoir des effets positifs de réflexion sur, alors bien sûr discuter, on ne dit pas qu'il ne faut pas discuter, mais comment est-ce qu'on peut formaliser. On a eu beaucoup de discussions aussi sur des compétences, est-ce que oui ou non le classement est une compétence importante. Donc ça a permis toute une série de discussions avec les formateurs. Maintenant, il faut voir comment est-ce que ça peut être utilisé. Et c'est clair qu'il faut que les apprenants puissent se positionner et se dire, mais tiens, moi peut-être, je voudrais bien faire telle formation, mais la marche est trop haute. Ou à l'inverse, on a eu aussi des témoignages que suite au travail avec le portfolio, mais on est vraiment en phase d'expérimentation. C'est l'inverse. Des participants qui n'osaient pas aller en formation professionnelle ou quitter lire et écrire ont franchi le pas d'aller s'inscrire en formation professionnelle, participer. Donc, ils ont vu qu'effectivement, la marche était tout à fait faisable, pour reprendre l'image de la marche. Et donc, ça de faciliter le parcours des apprenants est un objectif qu'on poursuit tout à fait. Alors, je pense qu'après il faut voir à l'usage, mais je pense qu'effectivement en précisant quelles sont nos compétences génériques, qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce que on entend par lire, écrire, parler, calculer, on va clarifier ce qu'est la qualité des actions. Et donc c'est vrai qu'au niveau de lire et écrire, on a fait beaucoup de choses, mais par exemple, il n'existe, et ce n'est pas encore dans le référentiel actuellement, parce qu'on doit travailler, qu'est-ce que c'est faire des maths à lire et écrire, qu'est-ce que c'est faire de l'oral à lire et écrire, qu'est-ce que c'est faire de l'écrit, faire la lecture d'écriture à lire et écrire. Jusqu'à présent, on n'a aucun texte validé par l'ensemble du mouvement qui dit ce que c'est. Donc, ce n'est pas encore présent dans le référentiel, ça doit être fait pour le mois de juin.
Peut-être une précision sur la démarche. C'est un référentiel qui se construit par un travail de formalisation des pratiques avec les formateurs qui pratiquent et les cordopédas. Donc on n'est pas non plus sur un modèle dans la démarche d'un référentiel externe qui s'impose à une pratique. On est bien sur un processus complètement inverse qui est de formalisation. Parce que quand même, donc toute une publique, enfin, vous le savez parce que vous travaillez en alpha, mais il y a quand même toujours à bien prendre la mesure que toute une partie des personnes qui sont en difficulté de lecture et d'écriture aujourd'hui sont passées par l'ensemble du système scolaire. Donc on a aussi à créer des référents et des référentiels et des balises qui soient tout à fait adéquates et qui ne soient pas une reproduction de ce qui a créé l'illettrisme et l'analphabétisme. Donc il y a des difficultés théoriques aussi, enfin vraiment...
Oui, moi je voulais juste revenir sur quelque chose, parce qu'on a prononcé plusieurs fois aussi le mot évaluation, et je reprends un peu une casquette, comme je travaillais beaucoup avec les profs et les formateurs. C'est vrai qu'il y a aussi cette logique différente entre l'évaluation formative et certificative. Et là, par rapport à ce que tu disais, Catherine, notamment dans l'exemple du grain aussi, à partir du moment où on propose à l'apprenant une démarche qui est quand même très importante, hein, par rapport à ce positionnement ou réfléchir à ce qui se passe et à l'apprentissage et le fait d'avancer, c'est vrai que pour le formateur, il y a quand même une grande différence entre l'évaluation formative et certificative. Et malgré tout, cette évaluation formative, moi j'ai toujours plaidé pour ça aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée et qui fait état progressivement des progrès ou parfois des petits remaniements à faire ou des remédiations, etc. Parce que pour beaucoup, on pense toujours qu'il dit évaluation, automatiquement on se dit « évaluation de fin de module, de fin de ceci, de fin de cela ». Mais c'est pas ça. Ça, effectivement, c'est dans une logique de parcours où on se dit « il faut une certification ». Mais la certification, rien ne dit, et ça dépend évidemment des différents systèmes, mais rien ne dit qu'elle doit être certificative essentiellement. La certificative peut se baser sur l'évaluation formative. Enfin, elle devrait d'ailleurs. Et donc ça, c'est une logique, je trouve, aussi très importante, parce que la formative tient beaucoup plus compte de cette ligne du temps et des progrès, parfois des arrêts, parfois des reprises d'eux. Et ça, je pense qu'on doit y penser aussi. On pourrait.
D'autres interventions, d'autres questions? Moi, je voulais quand même revenir sur la question des moyens et du financement, non pas pour être dans toujours la plainte sur plus de financement, etc. Donc on se rend bien compte. Et donc je pense que c'est vraiment une donnée fondamentale et qu'on vit très difficilement pour le moment sur deux aspects. Donc ce que Catherine a très bien illustré en termes de productivité, hein. Donc on doit être de plus en plus productif sur base de normes de productivité qui sont quand même très quantitatives, des heures stagiaires, des ci, des là, on arrive à ça, enfin comment, enfin sur quelle base, enfin voilà, toutes ces problématiques-là. Ça repose la question politique des moyens qui sont mis au service des politiques et des ambitions visées. Donc Antoine avait fait, c'est dans une de ses analyses qui est en ligne, le petit exercice de voir quel est le taux de participation au niveau européen à des formations pour adultes suivant le niveau de diplôme. Donc quand on prend les plus bas niveaux de diplôme et les plus hauts niveaux de diplôme, on est dans un rapport de 1 à 5. Donc il y a 5 personnes de haut diplôme en formation pour une personne de bas niveau. Donc il y a vraiment une problématique d'accès et de temporalité au droit. Le droit à prendre du temps, donc du temps de formation. On est bien ici aussi sur le savoir de base, c'est... Hein, on n'est pas en train d'apprendre un truc hyper précis technique, c'est toute une série de langages fondamentaux qui sont à construire. Donc c'est bien la qualité, et on voit bien les critères, et les apprenants quand ils disent ça, enfin, c'est quoi la qualité? C'est d'abord une formation, enfin, je veux dire, voilà. Et voilà. Et donc ça, c'est vrai que dans notre expérience, on a le sentiment que cette question-là qui pose la question du droit et du sens d'une politique, elle est de plus en plus inaudible. Ça, c'est vraiment, je pense, une des difficultés qu'on ressent. En tout cas, moi, je vis à mon niveau. Je vais peut-être pas généraliser dans ma fonction aussi, dans le point de vue où je suis.
Je voudrais aussi revenir à un moment sur les indicateurs et prendre l'exemple de la promotion sociale, puisque lire et écrire a contribué à créer des modules alpha dans l'enseignement de promotion sociale, puisque traditionnellement l'enseignement de promotion sociale commence au niveau secondaire, et aussi a contribué à créer un BES formateur en alphabétisation dans l'enseignement de promotion sociale. Donc il y a bien 4 modules alpha plus un module préparation au CEB, donc ça fait 5 au total. Eh bien on voit que les indicateurs donc là il y a un guide qualité pour l'enseignement de promotion sociale, et donc on voit que les indicateurs et un des indicateurs donc ça devient des critères de, soit si on n'est pas dans des choses plus en lien avec le terrain, on est dans des processus qui deviennent très administratifs. Donc je ne dis pas que c'est la volonté des gens, mais ça, on a des processus très administratifs, et comme on doit mettre tous ces indicateurs et les résultats dans des tableaux Excel ou donc ça induit beaucoup de choses. Et par exemple aujourd'hui en promotion sociale, un des indicateurs c'est le taux de réussite. C'est que les gens aient leur certification. Et donc, ça induit des effets de sélection des publics qui vont avoir la certification, et je vis ça actuellement tant pour les formateurs alpha que pour les personnes. Les apprenants qui ne peuvent pas atteindre les objectifs en 200 heures, ce qui est très peu, puisque on part de parfois de gens. Avant, il n'y avait pas de problème, les gens recommençaient un deuxième module, recommençaient un troisième module. Maintenant, la direction est ennuyée ou se fait interpeller par les chefs en disant « Mais comment ça se fait que ces gens commencent toujours les mêmes modules et ne réussissent pas ?» Et donc, il y a des... Et en plus, on ne peut pas mettre les indicateurs de réussite. Et donc, on a des pressions pour que les gens en fassent maximum de modules, puis finalement, on n'en fasse plus qu'un. Et donc les gens quand ils sont faits, il faut, et donc ça a deux effets. Donc soit on trie le public, soit on triche. Et donc c'est un effet qui est pas positif. Alors c'est nous, alors ok, la direction va tricher, ça va bien nous arranger, mais ce n'est pas éthiquement défendable. Et donc, on a tellement pression que on arrive à, par exemple, actuellement, ben, lundi, j'ai réunion avec le directeur de la promotion sociale. Est-ce qu'on va changer, comment faire pour que les gens, les futurs formateurs alpha qui aient moins de pertes, comment faire pour qu'il y en ait plus, ils ont beaucoup plus qu'on leur diplôme, mais une solution sur la table, c'est faire passer la formation en journée, temps plein, en 2 ans. Mais les gens, ça va sélectionner un certain type de public qui est peut-être pas celui qu'on voudrait sélectionner. Et donc, l'ensemble de ces critères, qui sont des critères de qualité, mais qui sont de fait mesurés que par des aspects quantifiables, qui est le nombre de gens qui terminent, qui ont leur diplôme, que ce soit pour l'alpha ou que ce soit enfin, à tous les niveaux, ben, il y a des pressions aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a 10 ans. Enfin.
Je voulais dire par rapport à ça, je suis tout à fait d'accord.
Et je parle de la promotion sociale, mais dans le secteur, dans d'autres secteurs, oui, c'est la même chose.
Mais c'est vrai, globalement, les chefs d'établissement sont devenus des gestionnaires financiers de dotation, et s'ils veulent que leur dotation et l'établissement puissent prospérer, effectivement, ce genre de démarche intervient depuis des années. Mais je voulais revenir sur, j'ai noté ici, hein, les droits et les sens du secteur, sur l'aspect financier. Donc, je suis un peu l'actualité éducative comme tout le monde, et donc je lisais encore un article cette semaine par rapport au budget du pacte d'excellence. Je n'ai rien contre le pacte d'excellence en soi, encore que, mais c'est quand même, je veux dire, on a connu ça déjà plusieurs fois, ce genre de pacte, et j'ai toujours l'impression que finalement on refait le pacte avec la même chose, et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Enfin, ça c'est mon opinion. Et je me disais cette semaine, une fois de plus, mais non d'un chien, quand est-ce que l'on va augmenter, et je dois dire, c'était un peu, entre guillemets, égoïste, le budget de l'enseignement de promotion sociale. Parce que on n'a plus eu de budget qui était augmenté de mémoire les dernières 50 000 périodes que nous avons eues. C'était grâce au ministre Marc Tarabella. Hein? Et depuis, il n'y a plus rien eu. Et donc, on a quand même un très petit budget par rapport au nombre d'écoles et le nombre de cursus. Et donc, qu'est-ce que l'enseignement de promotion sociale a développé depuis des années? Et c'est le discours que tout le monde a tenu. Faites des conventions avec les secteurs professionnels, etc., etc. Ça va vous ramener, ça va vous amener de l'argent et des périodes. Mais donc, quand moi je pense à ça, j'élargis ma réflexion à la vôtre. Mais je me dis, c'est quand même incroyable, ce pacte d'excellence, avant on a eu, il y en a eu 2-3 avant, et de toute façon les statistiques sont quand même toujours les mêmes. Ce qui est très malheureux pour nos jeunes, moi mes petits-enfants, hein, pour les enfants et petits-enfants qui sont dans nos écoles. Et donc, je me dis, voilà, on est de nouveau dans une priorité, tout comme, en plus l'article, le comble, c'est dans le soir, je lis le soir toujours, le comble, augmentation du budget pour le pacte d'excellence et l'enseignement supérieur. Et je me dis tous les jours. Alors parfois je peste, je vous donne mon sentiment, si on fait un rapport, il ne faut pas le mettre. C'est en dehors du rapport. Je peste sur la ministre Simonis parce qu'elle a quand même l'enseignement de promotion sociale, hein, même si c'est une charmante dame. Mais je me dis, mais non d'un chien, qui se bat pour l'enseignement de promotion sociale et pour le secteur de l'insertion? Et donc ça c'était ma réflexion. Alors, évidemment, tous les secteurs ont besoin de moyens. Mais c'est de nouveau le supérieur et c'est de nouveau l'obligatoire. Donc voilà, ça c'était ma réflexion, parce que c'est toi qui as dit le sens, là, hein, les droits et le sens, etc. Et le financement, j'avais bien noté, l'argent et les moyens. Et là, je pense qu'il y a quelque chose. Donc, je me dis parfois, je vais faire une question parlementaire que je vais envoyer à un ministre ou l'autre pour qu'elle soit posée, en posant la question. C'est comme si, moi j'entends toujours, oui mais finalement l'enseignement de promotion sociale se débrouille bien. Avec des bouts de ficelle, et jusque quand? Et le secteur chez vous, le vôtre, hein, il est dans la même situation aussi papille que le nôtre. Et donc voilà. Et donc là je me dis politiquement, même si j'ai œuvré au niveau politique aussi pendant tout un temps, Je me dis à un moment donné, c'est pour ça que je me dis, je vais poser une question, je vais envoyer une question parlementaire à quelqu'un pour qu'on la pose. Parce que je trouve ça grave. À l'heure où, non seulement l'Europe, mais en tout cas, chez nous, dans notre réalité francophone, on nous dit, il y a un public dont il faut s'occuper, mais dans le bon sens, enfin, logiquement, ça devrait être, nous, on le prend dans le bon sens du terme. Des gens que l'on doit pouvoir accueillir, remettre sur un chemin, enfin, je vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit. Et puis, ceux-là n'ont pas de sous. Nous, on nous dit, c'est l'école de la deuxième chance, moi je dis, voire de la troisième, voire de la quatrième, ou de la cinquième. Et on nous donne pas de sous non plus. Et donc, il y a quand même là quelque chose, si on quitte un peu, c'est pour ça que moi j'aime bien parler ce qu'on vit au niveau micro, mais alors ce qu'on vit au niveau macro, eh bien c'est inadmissible. Donc je pense que je vais envoyer une question parlementaire à quelqu'un.
Par rapport à cette question de financement, tout à l'heure dans ta présentation, ça fait l'objet, qualité et financement faisait l'objet d'un groupe de travail.
C'était le même groupe de travail.
Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur ce que ce groupe de travail questionne ou amène comme type de conclusion?
Mais c'était le premier groupe à l'époque éducation des adultes, donc il s'est clôturé en fin 2013. Et c'est vrai qu'au niveau du financement, comme c'est quand même assez, je trouve j'avais le mot touchy, mais un peu sensible comme matière, je n'ai plus les conclusions en tête, mais globalement, on a demandé une augmentation d'investissement, justement, dans le cadre des parcours des adultes et de l'éducation tout au long de la vie, mais on n'a jamais pu aller vers des données précises, parce qu'évidemment, il n'y avait pas unanimité au sein du groupe, et la commission habituellement, qui ne voulait pas s'avancer sur quelque chose hein, où il devrait avoir des engagements à part après. Mais donc, et justement le sous-groupe statistique, comme je vous ai dit, qui n'a pas duré longtemps, ben, c'était en lien avec tout ça. Et donc ça posait tellement problème dans les discussions que finalement le gros des discussions a porté sur la qualité et sur les outils. Voilà. Mais le financement, on a dit, il faut beaucoup plus financer le secteur des politiques d'adultes et d'éducation du monde.
On peut l'adhérer.
Oui. Ben oui.
Merci pour éclairer ces mécanismes.